Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il y a 22 ans, musiciens, chanteurs, comédiens s'étaient mobilisés pour l'Arménie peu après un tremblement de terre meurtrier. 4 ans plus tôt, les chanteurs sans frontières avaient chanté pour l'Éthiopie, victime de la famine. En 2021, après l'épreuve de la pandémie de Covid pour la scène musicale, ils n'ont pas chanté, mais se sont mobilisés pour la copie privée. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre le débat qui agite la tech et les artistes autour de la copie privée. Ils sont venus, ils sont tous là, même JJG, Jean-Jacques Goldman, sorti de sa retraite médiatique depuis Londres où il réside. Il y a aussi Zazie, Agnès Jaoui, Danny Boone, Maître Gims, Abdel Malik, Étienne Daho ou encore François Morel ou l'académicien Eric Orsenna. 1661 artistes à avoir signé une tribune dans le journal du dimanche en amont du débat sur l'empreinte environnementale du numérique. Bonjour Raphaël Balnieri.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service high-tech média des Échos. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la copie privée ?
Donc la copie privée, c'est un dispositif qui existe en France depuis 1985 et qui autorise chacun à faire des copies d'œuvres culturelles, musique, films. Par exemple, quand on va à un concert et qu'on fait une vidéo de l'artiste, tout ça relève de la copie privée. Ça veut dire qu'en gros, on est autorisé à copier des œuvres dès lors qu'elles restent dans le cercle privé. Et en échange, les auteurs perçoivent cette redevance. Donc, c'est une exemption au régime des droits d'auteur. Et certains dans l'industrie disent que voilà, sans la copie privée, tout le monde serait des pirates. Donc, c'est un mécanisme très, très important et qui a, en 2020, généré 273 millions d'euros.
Oui, c'est vrai que moi, je me souviens, avec les cassettes, on faisait des compilations très souvent pour des soirées, par exemple. Ça faisait partie, justement, de ces exemptions de droits d'auteur.
Oui, oui, tout le monde a copié des contenus culturels dans sa vie. Donc, on pense en effet aux cassettes qui permettaient d'enregistrer nos chansons préférées à la radio. Moi, j'ai davantage connu les CDR qu'on achetait à la FNAC et après, on gravait dessus des MP3. Tout ça a été pas mal balayé par le streaming et le modèle de l'abonnement aujourd'hui avec Spotify et Apple Music. Mais mine de rien, des formes de copies subsistent encore, même si elles sont devenues plus marginales.
Qui se charge de collecter cet argent ?
Donc, il y a deux organismes. Il y a d'abord la commission pour la copie privée. Donc là, c'est une autorité administrative indépendante, mais dans les faits, très dominée par le ministère de la Culture. Et donc, cette commission fixe le barème de la redevance copie privée, détermine aussi la liste des supports technologiques assujettis. Et à côté de ça, il y a une entreprise qui s'appelle Copie France, et qui, elle, se charge de collecter la redevance et de la redistribuer.
C'est une redevance, vous le disiez, c'est pas un impôt, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Ça n'existe qu'en France ?
Non. Donc aujourd'hui, la copie privée existe dans 75 pays du monde entier. Dans l'Union européenne, elle existe dans 26 des 27 États. Et il faut savoir qu'en Europe, donc c'est l'Allemagne qui a été le premier pays à lancer la copie privée. C'était en 1965. Et la France, finalement, est arrivée que 20 ans plus tard, en 1985.
Donc, la copie privée, ça existe en France depuis un certain temps. On a beaucoup parlé de cette redevance sur les téléphones portables, sur les tablettes, sur les cassettes à une époque. Pourquoi est-ce que cette question de la copie privée revient sur le devant de la scène de façon presque théâtrale, j'ai envie de dire ?
Alors, en fait, la copie privée revient sur le devant de la scène parce que le ministère de la Culture et le Premier ministre cherchent à étendre cette redevance au smartphone reconditionné. Donc un smartphone reconditionné, c'est un appareil qui a été remis à neuf par des sociétés spécialisées, on change l'écran, on change la batterie, et jusqu'à présent, ils étaient exemptés de cette taxe. En revanche, les smartphones neufs étaient bien taxés par la copie privée en fonction de leur capacité de stockage, ça allait jusqu'à 14 euros. Et comme le monde de la culture a été fragilisé pendant le Covid, le ministère de la Culture a vu dans les smartphones reconditionnés, en fait, un nouveau support qu'il était intéressant de taxer.
Qu'on comprenne bien, ce n'est pas du tout une remise en cause de ce système qui sera discuté le 10 juin à l'Assemblée nationale.
Non, c'est en fait ce qui sera discuté, ça sera l'extension de cette redevance aux smartphones reconditionnés. Et donc, en effet, le 10 juin, il y a en fait la loi sur l'empreinte numérique du digital qui va passer devant l'Assemblée en séance plénière. Elle avait déjà été validée par le Sénat. Alors aujourd'hui, dans la loi, en fait, elle exempte les smartphones reconditionnés de cette taxe. C'est à l'article 14. Mais le gouvernement pourrait utiliser le jeu des amendements pour faire sauter cet article 14 et donc appliquer la redevance aux smartphones reconditionnés.
Il faut reprendre la plume, encore. Nous sortons d'une année sans spectacle, sans public, une année de lieux fermés, de cultures sinistrées. Mais au moment où la vie culturelle en France commence à repartir, nous devons faire face à une autre bataille qui opposerait l'écologie à la culture. Elle va se dérouler le 10 juin à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat sur l'empreinte environnementale du numérique. C'est le début du texte des artistes dans le JDD qui appelle à refuser l'amendement qui fragiliserait encore un peu plus le monde culturel déjà très affecté par la crise sanitaire. On pourrait être surpris par une telle mobilisation du monde de la culture, plus de 1600 signatures avec des noms qui pèse lourd dans l'opinion.
Comme toujours avec le milieu de la culture, c'est assez facile de mobiliser des noms qui pèsent dans l'opinion, puisque il y a beaucoup de célébrités parmi elles.
Nicolas Madeleine est journaliste au service média des Échos.
Alors effectivement, il y a cette tribune donnée au journal du dimanche pour refuser l'amendement qui mettrait fin à la copie privée des téléphones reconditionnés. Il y a des gens comme Jean-Louis Aubert, Nathalie Baye, Benabar, le chanteur d'Indochine, Alain Chamfort, Jean-Michel Jarre. Donc ça pèse. Copie privée, enfin, peu de gens en ont vraiment entendu parler. C'est un terme très administratif, très technique, mais ça fait partie de l'arsenal des droits voisins à côté des droits d'auteur qui sont importants. Par exemple, pour le secteur de la musique qui est particulièrement concerné par la copie privée, puisque c'est la moitié des recettes, il en récupère la moitié des recettes à peu près, ça représente 220 millions d'euros par an sur un marché de 700 millions de la musique annuelle. Alors, c'est pas seulement la copie privée, il y a aussi les passages en radio, chez le coiffeur, dans les boîtes de nuit, et donc la copie privée. En France, le système de la culture est très soutenu, on le sait, c'est la philosophie de l'exception culturelle. Il y a les obligations de financement des chaînes, le financement du CNC, le soutien aux intermittents du spectacle, et puis le monde de la culture qui porte sa voix haut et fort. Et puis, il y a eu aussi 11 milliards d'euros mobilisés, même si ça mélange des aides différentes et des prêts pendant la crise sanitaire, dont l'année blanche des intermittents du spectacle. Donc, c'est surprenant, mais ça ne l'est pas tant que ça dans un pays où le secteur culturel est soutenu. Pour donner un peu un ordre d'idée, le chômage des intermittents du spectacle, on a vu là, il y a eu une année blanche qui va coûter 1 milliard grosso modo à l'État, donc les intermittents du spectacle ça coûte 1 milliard. Les soutiens qui passent par le CNC c'est 600-700 millions, donc l'estimation de la copie privée, enfin pas l'estimation d'ailleurs, le chiffre c'est grosso modo 260 millions d'euros par an, donc c'est un bloc important du soutien à la culture. À un moment où le contexte est difficile, les tournages de films et de séries ont repris grâce à des fonds d'assurance, mais il y a eu interruption des concerts, des spectacles, des sorties d'albums. Donc, il y a une mobilisation forte du milieu de la culture.
Oui, avec une inquiétude aussi, c'est que les changements dans la consommation, notamment de la musique, pourraient fragiliser justement ce que rapporte chaque année la copie privée.
Oui, à chaque fois, en fait, les organismes de gestion collective qui récupère la copie privée, essaye d'inclure tous les nouveaux moyens d'écouter de la musique. Et ce qui soutient aujourd'hui les 260 millions qui sont récupérés au titre de la copie privée, c'est l'adoption très forte des téléphones portables, dans lesquels on écoute beaucoup de musique. C'est pour ça que la moitié des 260 millions va à la musique. Mais on regarde aussi des films. Du coup, l'audiovisuel, cinéma, série, toute la production audiovisuelle, ça représente un tiers de la copie privée. Et puis, on regarde des images fixes, donc des photos ou du texte. Et ça, c'est les 15 derniers pourcents des 260 millions d'euros. Sachant qu'il n'y a pas que le téléphone portable, il y a aussi les clés USB, les cassettes, les DVD, etc. Et puis, tous les nouveaux moyens numériques de consulter cette création culturelle.
Ouais, 260 millions, hein, c'est ce qu'elle a rapporté. Ça a fortement évolué. Il faut savoir qu'en 1987, eh bien, cette copie privée n'est rapportée que 36 millions. On voit donc qu'il y a eu une forte progression. On était à 115 millions en 1992, 225 millions en 2011. À quoi sert cet argent ?
L'argent sert alors à rémunérer les créateurs d'abord, et puis ensuite au titre donc d'un droit voisin du droit d'auteur, comme on dit techniquement, et puis ça sert à aider des spectacles, des festivals, parce que les organismes de gestion collective qui gèrent la copie privée doivent consacrer au moins 25% des montants reçus au titre de la copie privée à des aides. Donc ça va de la production de spectacles, de festival et aussi d'aide à la production d'œuvres phonographiques, etc., à la production d'œuvres. Voilà. Alors, Copie Privée qui récupère cet argent dit que ça a permis de soutenir 12 000 projets culturels dans les territoires français. Création, festival, salle de spectacle, expo, salon du livre, projet d'éducation artistique et culturelle, etc. Et plus de 200 000 artistes ont toucher des rémunérations au titre de la copie privée. Et puis, ce que met en avant aussi Copie France, c'est que ça a permis de porter secours à plus de 10 000 artistes et créateurs qui étaient affectés par la crise sanitaire.
Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette taxe sur la copie privée, cette redevance, hein, plus exactement, elle est vitale pour le secteur de la culture ?
Oui, comment dire ? Chacun a sa position sur le montant que l'État doit allouer au soutien de la culture. On sait qu'en France, on a donc cette philosophie de l'exception culturelle qui fait qu'on soutient nos secteurs culturels. On n'est pas les seuls, mais un pays, par exemple, comme la Corée du Sud, se montre très proactif en matière de soutien à sa culture parce qu'elle y voit un soft power. Mais toujours est-il que, en tout cas, le secteur s'est habitué et s'est structuré avec ce montant qu'il récupère chaque année pour financer ses initiatives. Il y a un petit détail aussi, c'est qu'il y a un contentieux auprès de la Cour de justice de l'Union européenne qui fait que les organismes de gestion collective, donc ceux qui récupèrent la copie privée et les autres droits voisins, devraient redonner de l'argent aux artistes américains qui ne pouvaient pas toucher l'argent des droits voisins parce que les États-Unis n'avaient pas signé une convention de Rome de 1961 qui permettait une réciprocité, en fait, des perceptions des droits voisins. Et donc, en fait, il y a un enjeu pour les OGC, les organismes de gestion collective, à 140 millions d'euros d'arriérés et 25 millions d'euros par an. Ça explique aussi, je pense, la motivation du milieu de la culture et des OGC pour que la copie privée affecte aussi les téléphones reconditionnés.
En 2001, j'achète un lot de cassettes, des VHS, afin de conserver mes Super 8, car déjà ils s'émiettent, sur la cassette ils seront préservés. Toutes ces bobines, l'histoire de ma famille, ça prend de la place, il m'en a fallu 20. Arrivé à la caisse, je suis bien étonné, faut que je paie la taxe sur les copies privées.
Copie privée, j'ai déjà payé. Une chanson de Deux Copains d'abord que j'ai exhumée sur YouTube. Il y a un refrain sur les CD et sur la taxe qu'il a fallu repayer. C'était en 2013. On ne parlait pas ici de reproduction de films ou de musique, mais ce n'est pas l'usage qui compte. J'attends maintenant le refrain de 2020 sur la copie privée pour les smartphones reconditionnés. Raphaël, justement, combien rapporterait cette commission sur la copie privée sur les produits tech reconditionnés?
Alors, on parle aujourd'hui d'un montant environ de 14 millions. Vu que la commission copie privée vient de publier son barème, elle estime que 7 euros voilà, serait un bon montant. Et donc, vu qu'il y a 2 millions de téléphones reconditionnés par an, on arrive vite à 14 millions.
14 millions par rapport à un volume aujourd'hui de 270 millions. On voit bien que ce n'est pas forcément ce qui va révolutionner le marché, mais c'est vrai que ça ferait sans doute beaucoup de bien au marché de la musique. Le marché des téléphones reconditionnés, c'est un marché en plein essor?
Oui, c'est un marché en plein essor. Aujourd'hui, c'est un marché à 700 millions d'euros. En termes de vente, c'est que 10% aujourd'hui du marché de la téléphonie en France. Mais en valeur, voilà, ça a augmenté de 25% en un an. Selon les derniers sondages, on voit que 34% des Français ont déjà acheté un smartphone d'occasion, donc soit directement auprès d'un particulier sur Le Bon Coin, soit auprès d'un reconditionneur spécialisé. C'est 8 points de plus par rapport à l'année dernière. Et on voit aussi que 14% des sondés envisagent d'acheter un reconditionné. Tout ça, c'est un sondage e-commerce de début janvier.
Le débat aura lieu donc le 10 juin à l'Assemblée nationale. Quelle est la position du gouvernement pour l'instant?
Alors en fait, le gouvernement est très partagé. Globalement, il y a deux camps. D'un côté, le ministère de la Culture qui cherche à récupérer ses 14 millions d'euros. Et de l'autre côté, Bercy et notamment le secrétaire d'État au numérique Cédricot qui sont plutôt opposés à cette taxe puisqu'en fait, ils viennent de lancer un grand plan pour soutenir la filière du reconditionnement, inciter les opérateurs à collecter tous les smartphones usagés. Aujourd'hui, il y a 100 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs en France. Et donc, en fait, cette extension potentielle de la redevance vient complètement à rebours de ce projet-là.
Ça, c'est le smartphone reconditionné de Chloé. Elle l'a acheté sur Back Market, 300 euros de moins qu'un neuf. Tout ça parce qu'il n'avait pas son emballage d'origine. Bon, après, il ne peut pas prendre de photos non plus. Enfin, Chloé ne peut pas, parce qu'avec l'argent économisé, elle s'est offert un saut en parachute. Et là, elle est bien contente de ne pas l'avoir payé neuf.
Raphaël, derrière le débat écologique hein, sur le reconditionné et derrière la tribune de ces 1661 artistes, il y a une entreprise qui est nommément visée. Il s'agit de Back Market. Qui est-il?
Oui, alors Back Market, en fait, c'est le champion du reconditionnement. Alors, ce n'est pas un reconditionneur à proprement parler, c'est plutôt une plateforme de marché. Ils travaillent aujourd'hui avec 600 reconditionneurs dans le monde entier. Ils opèrent dans 13 pays, sur 3 continents. Ils viennent de lever 276 millions d'euros, ce qui leur a permis de devenir, en fait, une licorne française. Et donc, c'est un peu devenu l'épouvantail, en fait, dans ce débat-là, sachant quand même qu'en fait, ce n'est pas un reconditionneur. C'est une place de marché et donc a priori, ils ne seront pas concernés par cette redevance. Donc, c'est vrai que là, peut-être que le monde de la culture s'est un peu trompé de cible finalement.
C'est vrai que 276 millions levés, ben, c'est 20 ans de ce que la redevance sur les produits reconditionnés pourrait rapporter. On comprend effectivement que ce chiffre-là est pas mal agité le monde du spectacle et de la musique, hein, intéressé hein, par cette redevance sur la copie privée. Mais vous l'avez dit, on a un peu l'impression qu'ils se trompent de cible. Mais que répond la filière électronique à cette offensive culturelle?
La filière dit tout simplement que voilà, si on veut tuer le reconditionné en France, c'est pile ce qu'il faut faire, c'est-à-dire étendre cette redevance, simplement les obligerait à mettre la clé sous la porte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc c'est une industrie qui emploie 5000 salariés et avec cette redevance, en fait, la moitié de ces emplois, donc 2500, seraient menacés. On l'a dit, c'est un marché qui augmente très fortement, mais en fait, les entreprises sont encore très, très fragiles. Les marges sont assez faibles. Par exemple, sur un iPhone 8 reconditionné, les marges sont de 18 euros. Et donc, si on applique une taxe, une redevance de 7 euros, on sucre quand même la quasi-totalité de cette marge-là.
Même si c'est le consommateur qui, in fine, risque de la payer.
Oui, et du coup, les reconditionneurs vont devoir répercuter en fait cette redevance sur le consommateur final en augmentant le prix de vente du produit. La filière parle d'une augmentation de 5 à 10%, ce qui serait quand même important pour ce genre de produit.
On comprend l'inquiétude de la filière qui insiste aussi sur l'aspect écologique du reconditionnement. Pour Copie France, cette extension est naturelle. Le temps où seules les cassettes et les CDR permettant de graver des MP3 étaient concernés par la taxe est bien révolu. Pour cet organisme, les téléphones reconditionnés doivent être taxés car ce sont des produits mis sur le marché comportant de nombreuses pièces neuves, souvent les écrans ou les batteries. La commission dit aussi avoir fait un geste en fixant la redevance à 7 euros au lieu des 12 euros évoqués dans un premier temps. Elle justifie cet abattement car les utilisateurs de smartphones reconditionnés copie un peu moins que ceux ayant des téléphones neufs. Côté industriel, on indique que 2500 emplois et 20 entreprises du secteur seraient menacées. Raphaël, est-ce que cette taxe sur la copie privée pourrait freiner la consommation, l'achat de ces téléphones?
Oui, bien sûr. Et surtout qu'en fait, aujourd'hui, les Français achètent du reconditionné parce que ce sont des produits qui offrent des rabais de 30 à 40%. On peut acheter un iPhone 8, 9, 10, 11 à des prix bien plus intéressants que dans le 9. Et donc là, on tue un peu l'argument numéro 1 du reconditionné.
28% de nos clients sont des chômeurs, 5% sont des étudiants et 8% ont des revenus très limités, rappellent les spécialistes du reconditionnement. Merci Raphaël Balnieri et Nicolas Madeleine du service high-tech média des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, né après la fin de la VHS. Chargé de production et d'édition, Michel Varnet, qui comme moi a connu la joie de la compilation, à écouter sur un Walkman.
Ok, Boomer.